Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 31 juillet 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La visite du président du Parlement iranien en Syrie, qui s'inscrit dans le cadre du développement des interactions économiques régionales, s'est effectuée dans le but d'enlever les obstacles à la coopération bilatérale Iran-Syrie dans ce domaine. À peine quelques heures après qu'un navire cargo israélien a été pris pour cible d'une double attaque, le premier ayant impliqué un drone, un navire cargo saoudien a connu le même sort. Et au moins 4 athlètes ont été tués et d'autres blessés vendredi à la suite d'une explosion visant un bus transportant des footballeurs d'un club local à Kismayo, dans l'état de Jubaland, dans le sud de la Somalie. C'était les principaux titres. En voici le journal. La visite du président du Parlement iranien en Syrie, qui s'inscrit dans le cadre du développement des interactions économiques régionales, s'est effectuée dans le but d'enlever les obstacles à la coopération bilatérale Iran-Syrie dans ce domaine. Outre ses rencontres avec le président du Parlement, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le président Bachar al-Assad, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a eu une rencontre spéciale avec des hommes d'affaires ainsi que le ministre syrien du Commerce, portant sur les problèmes et obstacles dans les interactions économiques et commerciales entre les deux pays. Les questions soulevées montrent que Ghalibaf s'est concentré sur l'économie dans toutes ses réunions, même celles considérées comme politiques, soulignant que les relations chaleureuses entre l'Iran et la Syrie devraient passer de la phase militaire et sécuritaire à la phase économique et commerciale. La rencontre amicale avec le président syrien reste le point culminant de la visite du président du Parlement iranien à Damas. Prévue pour une heure et en public, la rencontre entre les deux parties s'est prolongée par une réunion privée qui s'est tenue pendant une heure. Évoquant l'importance de la victoire du peuple syrien dans la lutte contre le terrorisme qui marquera le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du pays, ainsi que la tenue d'élections parlementaires et présidentielles en Iran, Ghalibaf va considérer cette période comme une opportunité importante pour élargir la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment les activités économiques. Le président du Parlement iranien a souligné l'importance de développer les relations commerciales et économiques entre l'Iran et la Syrie, compte tenu des capacités existantes et de la disponibilité des deux pays, une prise de position saluée par le président syrien Bachar el-Assad. À peine quelques heures après qu'un navire cargo israélien appartenant au milliardaire sioniste Ofer a été pris pour cible d'une double attaque, le premier ayant impliqué un drone, un navire cargo saoudien a connu le même sort. autant les sionistes totalement paniqués ont été forcés de reconnaître l'attaque et même un bilan de 2 morts. Parmi leurs amis saoudiens, eux ont prétendu avoir contré leur raid anonyme. Alors même que les îles occupées du sud du Yémen sont devenues le terrain des alliances anti-résistance Riyad, Tel Aviv, Abu Dhabi, ces attaques croisées semblent remettre en cause bien des projets saoudo-sionistes. La partie sioniste vient de publier des informations supplémentaires. Zodiac Maritime, une propriété du milliardaire sioniste résident à Londres, Eyalofer, qui a été attaqué dans la mer d'Oman, a annoncé dans un communiqué que 2 membres d'équipage du navire cargo MT Merker Street avaient été tués lors de l'attaque. Sans fournir plus de détails, la compagnie a affirmé qu'elle n'était pas au courant s'il y avait d'éventuelles victimes parmi les autres membres de l'équipage, disant que les 2 personnels tués étaient des ressortissants britanniques et roumains. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a déclaré que les forces yéménites avaient achevé avec succès la 2e phase de l'opération Al-Nasr al-Mobin dans la province d'Al-Baïda. Cité par la chaîne de télévision Al-Masira, Sali a précisé. À la suite de cette opération, les 2 districts de Naman et Nati de la province Al-Baïda ont été libérés et les terroristes soutenus par la coalition saoudienne ont subi beaucoup de dommages importants. Le général de brigade Yahya Sali a également fait part de la capture de centaines de mercenaires de la coalition saoudienne, signalant des dizaines de morts, de blessés et de captifs parmi les éléments takfiristes. Et lui de poursuivre que les forces yéménites ont saisi de grandes quantités d'armes et qu'elles tentent de nettoyer d'autres zones occupées par des éléments takfiristes dans la province d'Al-Baïda. Il a souligné que l'opération des forces armées yéménites se poursuivrait jusqu'à la fin des attaques de la coalition saoudienne, la levée du blocus imposé contre le Yémen, la libération de toutes les terres yéménites et l'établissement de la souveraineté et de l'indépendance du Yémen. En Cisjordanie, des dizaines de manifestants palestiniens ont été blessés dans des affrontements avec des soldats israéliens. Selon des médecins et des témoins oculaires, des dizaines de manifestants palestiniens ont été blessés vendredi 30 juillet lors d'affrontements avec des soldats israéliens près de Naplouse et d'Al-Khalil en Cisjordanie. D'après des témoins oculaires, les soldats israéliens ont tiré des balles réelles, des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur les manifestants qui ont jeté des pierres sur les soldats. Les manifestants ont agité des drapeaux palestiniens et scandé des slogans anti-israéliens. De son côté, la Société du Croissant Rouge palestinien a indiqué dans un communiqué que son équipe médicale avait soigné plus de 220 Palestiniens blessés par les soldats israéliens lors des affrontements. Et sur fond de la multiplication des incendies dans les territoires occupés, un incendie de voiture vient de se produire à l'aéroport de Ben-Gurion, à la suite duquel tous les vols ont été annulés. Les sources d'information ont rapporté le vendredi 30 juillet que les autorités israéliennes avaient annulé tous les vols à l'aéroport Ben-Gurion à la suite d'un incendie de voiture dans l'un des parkings de l'aéroport. Un homme a été arrêté par les forces de sécurité à l'aéroport. Les responsables israéliens n'ont pour l'instant fait aucun commentaire sur l'arrestation de l'homme ni sur son éventuel rapport avec l'incident. Le feu s'est déclaré soudainement dans une zone agricole près de l'aéroport de Ben-Gurion avant de s'étendre très rapidement. Les équipes de pompiers ont évacué la ville israélienne de Zeitan, menacée par les flammes. L'aéroport de Ben-Gurion est le plus grand aéroport international d'Israël, situé à la périphérie de Lod et à 15 km au sud-est de Tel Aviv. En outre, l'aéroport abrite le 27e escadron de l'armée de l'air d'Israël. Au moins 4 athlètes ont été tués et d'autres blessés vendredi à la suite d'une explosion visant un bus transportant des footballeurs d'un club local à Kismayo, dans l'état de Jubaland, dans le sud de la Somalie. Une source policière a déclaré qu'un engin explosif dissimulé à l'intérieur d'un bus transportant des joueurs de la JCCI a explosé quelques instants après son départ en direction du stade sportif à Kismayo. Selon la radio locale de Mogadiscio, l'attentat à la bombe a détruit le bus. La même source a souligné qu'il s'agissait de l'un des clubs locaux de Kismayo et que l'explosion a eu lieu au moment de leur départ vers le stade. Jusqu'à 14h30 GMT, aucune partie n'a revendiqué l'attentat, mais les autorités pointent généralement du doigt le mouvement Al-Shabaab. Depuis des années, la Somalie mène une guerre contre les Shabaab, un mouvement armé créé en 2014 et affilié à l'organisation terroriste Al-Qaïda. Il a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts. Jeudi, la Somalie a fait un pas de plus vers un nouveau parlement et un président avec l'élection des premiers membres de la Chambre haute. En tout, 72 membres de l'Assemblée de l'État de Jubaland ont élu les quatre premiers sièges de la Chambre haute du pays, qui compte 54 membres, lors d'un scrutin qui s'est déroulé dans un lieu hautement sécurisé à Kismayo, une ville qui était autrefois un bastion du groupe Al-Shabaab. L'élection indirecte en Somalie est fondée sur un accord récemment conclu par les principaux dirigeants de la Fédération et des États. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Mise en garde navale du CGRI. Le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a déclaré que les forces iraniennes devraient maintenir le plus haut niveau de préparation et être prêtes pour des missions les plus difficiles. Lors d'une réunion jeudi 29 juillet dans le sud de l'Iran avec un groupe des forces de la marine du CGRI, le contre-amiral Ali Reza Tangsiri a déclaré que les forces iraniennes devraient maintenir leur préparation au plus haut niveau et se préparer aux missions les plus difficiles. Si l'ennemi faisait une action insensée ou menait une agression contre l'ordre islamique, il ne faudrait étouffer cet agissement dans l'œuf, a martelé le contre-amiral Ali Reza Tangsiri. Les responsables iraniens ont souligné à plusieurs reprises que le pays n'hésitera pas à améliorer son niveau de préparation en matière de défense et qu'il renforcera au besoin à un niveau maximal ses capacités militaires qui sont, rappelons-le, entièrement destinées à la défensive et non à l'offensive en principe. Après avoir parcouru 13 000 milles marins, les deux navires de l'armée iranienne sont arrivés à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour participer au défilé naval du 25 juillet de la marine russe. Les navires Sahan et Makran de la marine de la République islamique d'Iran ont commencé à naviguer depuis le port de Bandar Abbas en mai, passant l'océan Atlantique et traversant des eaux stratégiques avant d'atteindre le golfe de Finlande pour participer au plus grand défilé naval russe. La présence de la marine iranienne à Saint-Pétersbourg a montré au grand jour la puissance navale et la capacité des équipements de fabrication iranienne. Ce déploiement emporte néanmoins plusieurs autres messages non moins importants. Les flottes navales iraniennes pourront effectuer de longs voyages sans avoir besoin de s'amarrer dans aucun port. La fabrication du navire Makran augmentera la portée opérationnelle des flottes de la marine iranienne en mer. La flotte iranienne a navigué les côtes de la Grande-Bretagne et d'autres pays membres de l'OTAN et parcouru une distance de 13 000 milles marins pour mouiller au port russe. Cette décision de Téhéran a montré que si l'Iran faisait l'objet d'une menace, il ne se défendrait pas uniquement sur ses propres côtes, mais qu'il pourrait également déplacer le cercle défensif à des kilomètres plus loin. C'était d'ailleurs la première fois que des navires de guerre iraniens aient été déployés sur les côtes des pays européens. Les Américains, qui considéraient autrefois la présence de la marine iranienne dans l'océan Atlantique comme impossible, assistent désormais à la présence de navires de guerre et de soutien de la République islamique d'Iran dans la région, et cet événement adresse un message clair à la partie américaine. Selon des responsables américains, les drones iraniens sont devenus le plus grand défi opérationnel dans la région et donc désormais, les Américains devront se préparer à un nouveau défi. Un défi venant de la mer cette fois-ci et qui sait, peut-être même au large des États-Unis.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. La Russie travaille pour changer les règles de jeu en Syrie afin de réduire les agressions israéliennes contre les zones contrôlées par le gouvernement syrien. C'est ce qui a été confié par une source proche du ministère russe de la Défense au journal israélien Israël Hayom. Toujours en fait, selon cette source, la Russie a exprimé à maintes reprises son opposition aux agressions israéliennes contre la Syrie. C'est de ce sujet ô combien important qu'on va en fait vous parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux experts et spécialistes des questions internationales. Mais avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
La géniale idée d'une Syrie qui, tirant des salves croisées de roquettes, mais aussi surtout de missiles, combinée pourquoi pas à des nuées de drones contre Israël, et ce, consécutivement voire simultanément à des frappes aériennes, que l'entité sioniste a l'air de vouloir continuer à mener contre les sites militaires, voire les infrastructures syriennes, fait son chemin au sein du QG de la résistance. Ce mercredi à Damas, il en aurait même été peut-être question quand le président Assad, ayant reçu le président du Parlement iranien Ghalibov, a réitéré que l'Iran en particulier et l'axe de la résistance en général est là. L'allusion est faite évidemment au Hezbollah, au Hasht et au Fatemiyoun, entre autres. Il est hors de question qu'il quitte la Syrie avant que la libération des territoires syriens n'aura été complète. La presse n'en dit rien, mais cette assertion présidentielle mise à côté de cette autre phrase du président Assad, toujours prononcée au cours de cette rencontre selon qui l'Iran est le principal allié de la Syrie, suppose que les raids et frappes aériens israéliens se poursuivront. C'est sans doute à partir d'un tel constat que la Russie de Poutine a jeté une pavée dans la mare en cette fin de juillet en faisant échec aux trois derniers raids aériens israéliens ciblant les hauts lieux de la résistance, Alep Sud, Qusair et Damas Sud. La presse sioniste en veut à mort ces jours-ci à Poutine d'avoir envoyé au devant de la scène le général Vadim Kulit expliquer au monde entier comment ses batteries de missiles Buk M2, aidées par les pansirs S et que l'axe US-Turquie-Israël avait réussi à tourner en ridicule en octobre 2020, quand les drones Bayraktar turcs s'abattaient sur elle et les pulvérisaient dans le Haut-Karabakh, et ce, très sournoisement à la faveur des cartes satellites US, sur préfournies en coulisses à l'armée du sultan, ont ratatiné 17 des 18 missiles air-sol israéliens tirés du 18 à 21 juillet depuis la Méditerranée et d'Al-Tanf. Au train où vont les événements, les bases aériennes et les sites sensibles israéliens n'auront pas de beaux jours devant eux. L'axe Russie-Résistance ayant décidé de ramener le niveau de conflit à une étape supérieure, à faire en sorte que la Syrie tire dûment sa vengeance. Côté DCA, ce sera la Russie. Côté missile, la Résistance. Une toute dernière information toujours rapportée par Israel Defense évoque que le QG du CENTCOM auquel appartient désormais Israël est sur le point d'être construit à Hatzor. Mais entre Hatzor et Ayn al-Assad, les missiles de la résistance ne font aucune différence.
En fait, cette information concernant cette nouvelle stratégie adoptée par la Russie pour au moins réduire les agressions israéliennes contre le territoire syrien intervient à un moment où, on vient de vous le dire tout à l'heure dans notre reportage, le président du Parlement iranien, Mohammad Bared Radibaf, était en visite à Damas, où il a rencontré le président syrien Bachar al-Assad, et également le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, et d'autres responsables de ce pays. Et à cette même occasion, les deux parties ont réitéré leur volonté de vouloir promouvoir de plus en plus leur coopération dans tous les domaines. Pour vous en parler, on va partir à de Moscou pour rejoindre un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur votre plateau.
C'est un plaisir partagé. Avant de vous poser des questions, M. Beurre, permettez-moi de vous dire et de le dire également à nos chers téléspectateurs que l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Damas. Il s'agit de Maître Arnaud Develé. Maître Develé, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à M. Beurre.
Monsieur Beurre, comme première question, comment expliquez-vous cette information qui avait été donnée, si vous voulez, par cette source proche du ministère russe de la Défense et qui a confié en fait au journal israélien Israel Hayom que la Russie envisagerait désormais d'œuvrer pour la réduction des agressions israéliennes contre le territoire syrien, la Russie qui s'oppose désormais, si vous voulez, à cette multiplication des agressions israéliennes contre le territoire syrien. S'agit-il d'un vrai changement de cap et de politique de Moscou sur ce sujet, M. Beurre ?
Alors, je ne pense pas que c'est un changement de cap, c'est un changement de degré. La politique russe, la diplomatie russe, qu'elle soit militaire d'ailleurs également, a toujours été graduelle, laissant toujours une porte de sortie, une voie de négociation, tant bien même que celle-ci soit presque par acquis de conscience qu'elle puisse se déployer dans le cas précis, c'est-à-dire de laisser la chance à Israël de ne pas continuer dans leur politique d'agression régionale. Aujourd'hui, on rentre dans un cadre différent, puisqu'il faut élargir la loupe également, non seulement de la Syrie, mais également du Proche-Orient pour revenir à vraiment la géopolitique mondiale où la Russie accélère. Le bloc eurasiatique, le bloc eurasien accélère son déploiement au niveau mondial et il est primordial en cela qu'elle ait, entre autres, le contrôle de la Méditerranée, orientale. Et pour cela, il faut que la Syrie, effectivement, devienne un bastion. Et en cela, la Russie, aujourd'hui, démontre, on va dire, à passer un degré supérieur dans la mise en place de sa politique, à savoir qu'elle fait savoir d'une manière très claire et pratique à Israël que le jeu était terminé, qu'elle avait eu des cartes en main pour pouvoir négocier avec elle et qu'aujourd'hui, face à sa politique constante d'agression vis-à-vis de la Syrie, que le jeu était terminé. C'est comme cela qu'il faut le comprendre et c'est comme ça que la Russie le déploie. Et c'est quelque chose qui est assez logique et ça n'a pas grand-chose à voir avec le changement de l'administration israélienne, puisque la politique israélienne à l'extérieur, en règle générale, comme la politique américaine, les administrations changent, mais la politique reste. C'est simplement par rapport au calendrier du bloc eurasien dans la confrontation avec le bloc occidental qui aujourd'hui, de par ce qui se passe ici, là, dans le monde, commence, on va dire, dans cette région, puisque c'est à partir de là que commence pour la Russie en elle-même son redéploiement mondial, on va dire, et également c'est important pour elle dans sa politique régionale, entre autres l'axe Moscou-Téhéran, l'axe stratégique Moscou-Téhéran dans le cadre du bloc eurasien.
Et M. Beurre, s'agissant en fait de ce changement de degré auquel vous faites allusion pour commenter cette si vous voulez, pas de nouvelle politique, mais quand même cette nouvelle approche, disons-le, dans la politique de syrienne de Moscou. En fait, sur ce point, la Russie semble vouloir, si vous voulez, de transmettre un signal fort également à Tel Aviv et sur ce point, parce que ces récentes agressions israéliennes contre le territoire syrien étaient un échec, parce que, en fait, des missiles tirés par des avions israéliens avaient été, en fait, en majorité, en quasi-majorité, détruits, si vous voulez, par la DCA russe utilisée par l'armée syrienne.
Oui, et aujourd'hui en particulier, ça a toujours été le cas. La Russie a fourni au fur et à mesure on va dire, de la mauvaise volonté israélienne, de la main tendue russe, mais que j'indique qui a été tendue par acquis de conscience, fait qu'ils ont au fur et à mesure armé en défense l'armée arabe syrienne. Et aujourd'hui, entre autres, la Russie veut définitivement faire de la Syrie un bastion infranchissable, parce que la base de Tartous fait partie, dans le cadre de son redéploiement international, d'un élément très important, entre autres pour le contrôle de la Méditerranée occidentale, dans le cadre de cette confrontation géopolitique mondiale. Ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai indiqué qu'il y avait tous ces éléments et qu'il fallait élargir, puisque tout est lié, et aujourd'hui l'agenda, on va dire, s'est accéléré et s'accélère, et on le voit dans les différentes parties du monde, d'ailleurs, parce qu'on peut parler d'Haïti, vous dire, mais quel rapport avec ? Mais ça a un rapport aussi avec votre pays, l'Iran, avec les accords militaires. On parle du golfe de Guinée, on parle de ce qui se passe dans l'océan Indien. Tout cela est en relation, et Israël étant le porte-avions de l'impérialisme occidental dans la région, bien évidemment, c'est une cible qu'il faut fixer. Et pour cela, il faut évidemment, cette fois-ci, défendre sans hésitation la Syrie, et ce pourquoi aujourd'hui nous avons ce renforcement militaire régional.
On va revenir plus tard dans cette émission, M. Beurre, sur cette coopération Iran-Syrie-Téhéran-Damas également, pour commenter un peu cette visite à Damas du président du Parlement iranien, M. Qalibaf. Maître Develé, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Vous venez d'entendre les explications de M. Beurre. Vous êtes à Damas, vous suivez de près les évolutions en ce qui concerne cette coopération Damas-Moscou, Damas-Téhéran. Votre analyse, s'il vous plaît.
Ben écoutez, je serais un petit peu plus nuancé que M. Bor sur la situation en ce qui concerne donc la posture militaire et politique de la Russie vis-à-vis des Israéliens. J'aurais plutôt tendance à penser que les Russes ont peut-être été... Alors, c'est la nature de la Russie en tant que grande puissance de jouer un jeu diplomatique élargi et de pouvoir être en mesure d'être au carrefour des conversations et des discussions qui peuvent avoir... tantôt à la situation syrienne, tantôt à la situation régionale, et partant de là dans un cercle concentrique beaucoup plus large. Ceci étant dit, il faudra souligner que depuis l'arrivée à Tel Aviv de l'administration de Bennett, les lignes de confliction, donc la ligne rouge téléphonique, si je puis dire, qui existait entre Moscou et Tel Aviv a été visiblement interrompu. Donc on peut penser dans ce contexte-là que le nouveau gouvernement sioniste s'efforce de trouver, chercher ses marques, qu'elle cherche aussi à créer une espèce de d'ADN politique après 12 ans de gouvernance sous Netanyahou. Et que la meilleure façon, par défaut, quelque part, de commencer ses pas dans la région, c'est de continuer la même politique de violation de la souveraineté syrienne et de toujours brandir, si je puis dire, l'épouvantail que Tel Aviv considère comme étant la République islamique d'Iran à ses portes. Hein. C'est un élément de langage politique, de toute façon, qui marche bien et qui permet de souder l'opinion publique derrière une administration qui, somme toute, est quand même composée de partis extrêmement disparates et dont on doute qu'ils ne puissent résister longtemps à un vote de censure ou à une dissolution qui reverrait certainement les derniers pour revenir. Donc, dans un contexte comme celui-ci, la Russie, bien sûr, se doit de prendre acte du changement des règles qui gouvernaient depuis l'incident de septembre 2018, les rapports entre Tel Aviv et Moscou. Ceci étant dit, j'ai lu la presse israélienne concernant les déclarations de ce haut officiel russe, et la presse israélienne semble refléter essentiellement une forme de, je dirais pas de moquerie, mais de dédain, comme s'il ne prenait pas au sérieux en fait les déclarations russes, insistant sur le point qu'ils allaient continuer leurs actes d'agression et qu'ils allaient certainement, sur un plan technique, ajuster leurs agressions en utilisant des moyens balistiques à longue portée. Donc, de toute façon, fondamentalement, on s'aperçoit qu'il y a quelque part un dialogue de sourds, que l'Israélien essaye d'abuser quelque part de cette ouverture d'esprit de Moscou, et ce faisant, en tout cas, envoie un message qui laisse entendre qu'ils sont prêts à jouer dans la surenchère, et dans la mesure où vous l'aviez souligné en ouverture, plus que jamais, et réaffirmé au travers de la visite du président de l'Assemblée de la République islamique d'Iran à Damas, la résistance, bien comprise, est plus unie et mobilisée que jamais, et Moscou doit en prendre compte. Moscou doit comprendre qu'il doit s'appuyer sur la résistance et peut-être modérer ses attentes quant à obtenir de ses partenaires, entre guillemets, une certaine forme de modération, voire d'aspect constructif dans les discussions.
Mmh. Alors, vous voulez dire que Maître Devolet, ça s'inscrit dans le cadre, et vous avez fait allusion à cette visite à Damas et du président du Parlement iranien. Vous voulez dire que tout cela, ça s'inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par l'axe de la de résistance à plus la Russie.
Absolument. Je pense que s'il y avait encore des doutes sur le sujet, la visite de mercredi les a complètement enterrés, à savoir que la direction syrienne a réaffirmé que la résistance, l'Iran était le partenaire, il y avait une relation absolument inaliénable entre Damas et Téhéran, et que c'est sur ce postulat à la base. Ensuite, tout devra s'organiser. Donc la Russie, dans ce sens-là, doit prendre en compte la réalité et ajuster sa politique étrangère de manière à ce que cette collaboration et ce bloc eurasiatique dont M. Borg parlait puisse se déployer dans une harmonie parfaite.
Mmh. M. Borg, vous aussi, s'il vous plaît, un mot sur cette visite à Damas du président du Parlement iranien. Vous aussi, est-ce que vous estimez, tout comme M. Baer, que désormais, en fait, l'ensemble de la résistance va, si vous voulez, riposter comme il faut aux agressions israéliennes contre la Syrie?
Entendons-nous bien. La Russie n'a aucune forme de naïveté. Elle a simplement cette volonté de toujours aller jusqu'au bout, même si elle sait qu'il n'y a pas de solution. Je parle de dialogue d'égal à égal avec Israël. Ça a toujours été sa politique. S'il reste même 0,0001% de chance, ils vont jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne prévoient pas et qu'ils ne sont pas en action face à ce bloc occidental dont fait partie évidemment Israël, surtout depuis son intégration au SAMCOM. Simplement, c'est que chacun a son rôle. La Russie en Syrie est présent pour... je rappelle quand même qu'en 2015, si la Russie ne serait pas intervenue, la situation militaire était quand même assez déséquilibrée. Elle a permis de remettre dans le bon sens l'action effectivement de la résistance et permis donc, entre autres, et essentiellement d'ailleurs sur le terrain, aux forces de l'axe de la résistance de rétablir en grande partie jusqu'à présent la souveraineté sur le territoire de l'État, sur le territoire de la République arabe syrienne. Maintenant, les rôles justement dans son bloc eurasiatique sont bien répartis. En Syrie, la Russie est plus dans une situation de fournir des armes pour défendre, et l'axe de la résistance est bien évidemment dans une position plus offensive. Et en cela, rappelons quand même que l'axe stratégique Moscou, Téhéran, et qui aujourd'hui, je vais revenir tout de suite à votre question, est très présent. Le fait que au dernier défilé de la flotte à Saint-Pétersbourg, il y ait un des plus hauts gradés de l'armée iranienne, et en particulier de la flotte, est un élément important, surtout, et je reviens dans le redéploiement international, dans la confrontation entre le bloc eurasiatique et le nouveau bloc de l'Est et le bloc occidental, la flotte, la mer redevient important. On revient toujours au conflit entre Rome et Carthage, la terre, et c'est Rome a vaincu Carthage en annihilant les forces donc maritimes de sa rivale. C'est en cela qu'aujourd'hui nous avons bien cette répartition des rôles en Syrie, et jamais la Russie n'a voulu déloger entre guillemets qui que ce soit, mais évidemment, étant donné qu'il y a un axe de la résistance qui passe Téhéran, Damas, allant jusqu'à donc au Liban, avec bien évidemment le Hezbollah, ceci étant dit, chacun, comme je le répète, chacun a son rôle. Je rappelle que la Russie a bien compris cela lorsqu'elle est intervenue depuis 2015, elle a bien compris qui était sur le terrain, et les rapports avec le Hezbollah, effectivement, je pense, sont plus que sérieux, et même d'ailleurs d'un point de vue officiel, il y a déjà eu des déclarations où, depuis Moscou, on disait effectivement à quel niveau d'intérêt et de respect qu'on avait vis-à-vis des combattants du Hezbollah qui avaient combattu, et je pense encore, mais moins à l'heure d'aujourd'hui, bien évidemment, en Syrie avec les forces russes en 2015, afin de rétablir l'équilibre face aux forces extrémistes djihadistes, et en particulier celles qui étaient bien évidemment, enfin je dirais même c'est un pléonasme, soutenu par les puissances occidentales. Donc la visite à Damas aujourd'hui ne fait que réaffirmer cet axe qui a toujours existé entre Téhéran bien évidemment et Damas. Moscou, dans le cas précis, n'est là, on va dire, qu'en soutien par rapport à sa politique régionale, par rapport à sa politique mondiale, et en particulier par rapport à son allié stratégique iranien, où dans ce cas précis en Syrie, chacun a son rôle à jouer. La Russie joue le sien, et l'axe de la résistance, en particulier soutenu par la République islamique d'Iran, le sien. Pour moi, c'est une parfaite coordination à l'heure d'aujourd'hui dans le combat au Proche-Orient et vis-à-vis de l'entité sioniste d'Israël.
Maître Develet, de cette nouvelle approche adoptée par la Russie, peut-elle s'interpréter également dans ce sens que les Russes se sont rendus compte que ces agressions israéliennes contre le territoire syrien constituent certainement une violation de la souveraineté d'un pays souverain, mais mettre également en péril les acquis et les intérêts de la Russie en territoire syrien?
Écoutez, je répéterai ce que disait M. Bohr en ouverture. Je constate que ce soit une nouvelle approche. C'est effectivement une gradation dans le haut. Les Russes sont très légalistes. Donc, de toute façon, ils privilégieront toujours le dialogue, la diplomatie et le respect du droit de manière générale dans leur interaction avec les pays du monde de manière générale. Maintenant, effectivement, ils s'aperçoivent que cette approche commence à montrer ses limites, surtout dans une position de facto où ils doivent maintenant commencer à peut-être réaligner, recalibrer leur perception de leur interaction avec les Israéliens, qui pour l'instant, il faut quand même le dire, semblent par leurs actions souligner un refus de prendre en compte la situation et d'ajuster leur politique. Donc, personne ne veut jouer l'escalade, hein, ce n'est pas dans l'intérêt de quiconque, mais toujours est-il que nous sommes en présence conséquence, visiblement, une situation où, certainement, pour les Russes, recalibrer peut-être un tant soit peu à la hausse leur interaction, leur relation bilatérale avec les Israéliens, et leur faire comprendre qu'ils ont, sont bien disposés à prendre les mesures adéquates pour leurs intérêts à eux aussi qui sont importants en Syrie.
Maître Arnaud de Volley, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Beurre, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Les Occidentaux sont injustes et malveillants dans leurs négociations, a déclaré le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. D'autres devraient utiliser les expériences de l'administration de M. Rouhani, dont l'expérience de se méfier de l'Occident. Dans cette administration, il s'est avéré que la confiance aux Occidentaux ne fonctionne pas. Ils n'aident pas et nuisent partout où ils le peuvent, a déclaré mercredi le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Le président Rouhani et les membres de la 12e administration ont rencontré l'honorable Ayatollah Khamenei dans la matinée du mercredi 28 juillet. Et ce qui suit est un extrait des déclarations du guide suprême de la révolution islamique lors de cette dernière réunion avec les membres de la 12e administration iranienne. D'autres devraient utiliser les expériences de l'administration de M. Rouhani, dont l'expérience de se méfier de l'Occident. Dans cette administration, il s'est avéré que la confiance aux Occidentaux ne fonctionne pas. Ils n'aident pas et nuisent partout où ils le peuvent. Les administrations ne doivent absolument pas lier leur plan à des négociations avec l'Occident, car elles échoueront certainement. Cette administration, là où elle a lié ses plans à des négociations, a échoué. Là où elle s'est appuyée sur les capacités internes, elle a réussi. Lors des récentes discussions sur le nucléaire iranien, les Américains ont obstinément insisté sur leur position hostile. Ils font des promesses et disent sur papier qu'ils vont lever les sanctions, mais en pratique, ils ne les ont pas levées et ne les lèveront non plus. L'Occident et les États-Unis sont totalement injustes, malveillants dans leurs négociations. Ils n'hésitent pas à violer leurs engagements sur l'accord précédent. Ils ont violé leurs engagements et ne donnent non plus aucune garantie de respecter leurs engagements à l'avenir. Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé au cours de sa rencontre avec le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf en visite à Damas que la coordination existante entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme avait eu des résultats positifs sur le terrain, soulignant que cette coordination se poursuivra jusqu'à la libération de tout le territoire syrien et l'éradication des réseaux terroristes. Les deux parties ont mis l'accent sur le rôle important du Parlement en Syrie et en Iran pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique, non seulement dans le secteur du gouvernemental, mais aussi en activant la coopération entre le secteur privé entre les deux pays pour que les deux peuples amis puissent faire face à la guerre économique, l'embargo et les sanctions imposées contre eux. Le président Assad a affirmé que l'Iran est un partenaire essentiel pour la Syrie qui a soutenu le peuple syrien à faire face à la guerre terroriste ainsi que dans tous les domaines.
De son côté, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a fait savoir que les élections qui s'étaient déroulées récemment en Syrie et en Iran montrent la détermination des deux peuples à tenir ces élections malgré les pressions exercées contre eux. Personne ne peut s'opposer à la volonté des peuples, a-t-il souligné. Les États-Unis ont encouragé la faillite du Liban et empêché les conclusions sur l'explosion du port de Beyrouth, accuse un homme politique libanais. Selon le chef d'un parti libanais laïque et anticonfessionnel, les États-Unis ont encouragé la corruption au Liban pour provoquer sa faillite et empêche aujourd'hui d'aboutir aux conclusions dans l'enquête sur l'explosion dans le port de Beyrouth. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision d'information libanaise Al-Mayadin, le chef du mouvement populaire MPIT, Najah Wakim, a accusé les États-Unis d'intervenir pour empêcher d'aboutir à une conclusion dans l'enquête sur l'explosion dans le port de Beyrouth. Faisant partie de ceux qui défendent la thèse selon laquelle cette explosion a été causée avec préméditation et non accidentellement, par négligence, le chef de ce parti politique libanais a déclaré que la décision de bombarder le port de Beyrouth est américaine et qu'elle aurait pu être exécutée par Israël. Qui a le plus intérêt à perturber le transit? L'une des fonctions les plus importantes du Liban, s'est-il interrogé. Le 4 août 2020, une énorme explosion, l'équivalent d'un dixième de la charge de l'arme atomique, selon certaines estimations, a réduit en miettes le port de Beyrouth et ravagé des quartiers situés aux alentours, tuant plus de 200 personnes et blessant plus de 5000 autres. Washington ouvre les lignes entre Israël et les pays arabes et empêche le Liban d'ouvrir. Et les siennes avec la Syrie a aussi accusé M. Wakim, qui a été député pendant plus de 30 années. En outre, cet homme politique chevronné et connu pour son franc-parler estime que les États-Unis ont encouragé la corruption au Liban et protègent ses symboles. L'une des raisons de la crise économique et financière qui touche le Liban depuis le 2019. Ce sont les instructions américaines qui ont conduit le Liban à la faillite, a-t-il souligné encore. Pour Moscou, Joe Biden se trompe fondamentalement sur la Russie. Moscou a répondu aux accusations du président américain Joe Biden qui avait jugé Vladimir Poutine encore plus dangereux en raison des problèmes qu'il impute à l'économie russe. Les deux pays poursuivent toutefois des négociations à Genève. Le Kremlin a estimé le 28 juillet que le président américain Joe Biden se trompait fondamentalement dans son analyse de la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a en effet déclaré aux journalistes « La Russie est une puissance nucléaire, mais une puissance nucléaire très responsable. Et oui, nous avons un vaste secteur pétrolier et gazier, mais affirmer que la Russie n'a rien d'autre est fondamentalement faux. » Dmitri Peskov a également assuré que la Russie n'avait pas la moindre intention d'interférer dans les processus électoraux dans d'autres pays. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré le 26 juillet que l'administration américaine actuelle restait dans le sillage de la politique erronée de Donald Trump vis-à-vis de Pékin. Le nouveau gouvernement américain poursuit en gros la politique erronée de l'administration précédente à l'égard de la Chine en renforçant la discussion et la pression sur le pays, ce à quoi nous nous opposons fermement, a déclaré Wang Yi lors d'une rencontre avec la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman en visite en Chine. Il estime que maints problèmes bilatéraux découlent de la mauvaise perception de la Chine par Washington. Je voudrais dire clairement et sans équivoque aux États-Unis que le développement et la renaissance de la Chine sont l'épreuve d'une énorme force motrice intérieure et représentent une tendance inévitable de l'histoire. Je voudrais également dire clairement et sans équivoque que la Chine continuera de suivre la voie du développement pacifique et de s'en tenir à une stratégie d'ouverture gagnant-gagnant, a souligné le ministre chinois des Affaires étrangères. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivie. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.